VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde. Aujourd'hui, édition du vendredi 18 août 2017, en direct de Washington, Idrissa Sedoudia et Anne Albertson. Nous commençons par les titres.
Le président de la Guinée, Alpha Condé, à Ouagadougou, pour exprimer sa solidarité et celle de l'Union africaine après l'attaque terroriste de dimanche dernier.
Washington veut une enquête complète de l'ONU sur le meurtre en mars de deux experts onusiens en République démocratique du Congo.
Deux attentats à la voiture Bélier ont été commis à quelques heures d'intervalle en Catalogne, dans le nord-est de l'Espagne.
Ici aux États-Unis, le président Donald Trump réagit vivement aux critiques de parlementaires républicains après ses propos sur les violences raciales de Charlottesville, en Virginie.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
Le président guinéen Alpha Condé est à Ouagadougou, au Burkina Faso, où il est allé affirmer la solidarité de son pays et celle de l'Union africaine après l'attaque terroriste qui a frappé le café Aziz Istanbul le 13 août dernier. Monsieur Condé s'est rendu sur le site du drame et il a apporté son soutien aux familles des victimes d'une attaque non encore revendiquée. De la capitale burkinabé, notre correspondant Issa Napon.
Le président Alpha Condé s'est rendu dès son arrivée en début de soirée sur le site du drame. Sur place, le président guinéen a reçu les explications du commandant Evra Somda, chef de l'unité spéciale d'intervention de la gendarmerie nationale. Le professeur Condé a constaté les énormes dégâts matériels et vu l'endroit où les terroristes ont été finalement abattus l'un après l'autre. Une manière de marquer son soutien a soutenu le président guinéen.
C'est absolument nécessaire que montre la solidarité de la Guinée à l'égard du peuple burkinabé, mais surtout aussi la solidarité de l'Union africaine. J'ai apporté une condition de 100 000 dollars pour donner aux familles des victimes. Nous allons faire tout notre possible au niveau de l'Union africaine. Nous allons pas apporter notre soutien, mais aussi demander à nos amis d'accélérer, de rendre opérationnel le G5. Vous savez, lorsque les gens décident de mourir, qu'ils viennent en moto, c'est imparable. Quelles que soient les mesures que vous prenez, la seule chose, c'est renforcer nos renseignements pour pouvoir les détecter à temps et les empêcher d'agir.
Après le Malien Ibrahim Boubacar Keïta, il y a 48 heures, le professeur Alpha Condé, le deuxième président, a foulé le sol burkinabé pour marquer son soutien après l'attaque. Il s'en a pour
Toujours au Burkina Faso, trois militaires burkinabés ont été tués et deux autres grièvement blessés hier dans le nord lorsque leur véhicule de patrouille a sauté sur un engin improvisé. Frontalier du Mali et du Niger, le nord du Burkina est le théâtre d'attaques djihadistes régulières depuis 2015. Le groupe Ansarul Islam y est particulièrement actif.
Les États-Unis veulent une enquête complète de l'ONU sur le meurtre en mars de deux experts onusiens en République démocratique du Congo, tandis que Kinshasa a rejeté toute enquête internationale indépendante. Mais la représentante permanente des États-Unis à l'ONU, Nikki Haley, a souligné que l'enquête sur le meurtre de ces experts qui ont risqué leur vie pour aider les autres ne peut s'achever dans une procédure bureaucratique. Eric Manirakiza.
Madame Haley s'est exprimée à l'occasion d'une réunion du Conseil de sécurité sur la RDC en présence des familles de victimes. Le ministre congolais des Affaires étrangères, Léonard Che Okitundu, présent à New York hier, a réfuté la nécessité d'une enquête internationale indépendante. Plusieurs membres du Conseil de sécurité, dont la Suède et la France, ont demandé à Kinshasa de coopérer pleinement avec l'équipe d'experts internationaux. Madame Haley a par la suite brandi la menace de nouvelles sanctions si des progrès ne sont pas faits en matière de paix et de stabilité pour le peuple congolais. Pour l'instant, l'ONU dispose de deux rapports réalisés en juin et en août par des experts et des enquêteurs onusiens. Le premier évoque un guet-apens prémédité sans exclure l'implication de membres de la sécurité d'État. Le second pointe du doigt des miliciens et réclame des investigations complémentaires pour identifier formellement les auteurs de ces meurtres.
Gabriela Engels, victime présumée de l'épouse du président zimbabwéen Robert Mugabe, soupçonnée de coups et blessures en Afrique du Sud, s'est vue offrir de l'argent pour classer l'affaire. C'est ce qu'a affirmé hier l'avocat de la jeune femme en présence de la victime présumée, le front partiellement recouvert d'un pansement. Il a ajouté que la famille avait décliné l'offre. Grace Mugabe, la première dame du Zimbabwe, est accusée d'avoir agressé dimanche dimanche à Johannesburg, Gabriela Engels, une mannequin de 20 ans qui se trouvait dans le même hôtel qu'elle.
Un haut niveau d'exaction touchant des enfants a été constaté en 2016 dans plusieurs pays, selon un projet de rapport du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Parmi les pays visés par le projet de document, dont la publication est attendue dans les semaines à venir, figurent notamment la Somalie et la Syrie, deux pays où le recrutement et l'utilisation d'enfants ont plus que doublé par rapport à 2015.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Deux attentats à la voiture Bélier ont été commis à quelques heures d'intervalle en Catalogne, dans le nord-est de l'Espagne, faisant 13 morts et une centaine de blessés hier dans le cœur touristique de Barcelone, alors que 5 terroristes présumés ont été abattus tôt ce matin à Cambrils. Jeudi, en fin d'après-midi, une camionnette a foncé dans la foule sur l'artère la plus fréquentée par les touristes dans la métropole catalane. L'attentat a été rapidement revendiqué par le groupe djihadiste État islamique. Le conducteur de la camionnette a pris la fuite après avoir fauché les passants, mais deux suspects, un Espagnol et un Marocain, ont été arrêtés par la police.
Et vers minuit, 6 civils et un policier ont été blessés quand des terroristes présumés ont foncé dans la foule sur la promenade de bord de mer à Cambrils, une ville touristique à 120 km au sud de Barcelone. Les 5 occupants de la voiture ont été tués, a annoncé la police régionale, qui auparavant avait annoncé avoir abattu 4 terroristes présumés, mais le 5e est mort de ses blessures. Certains d'entre eux portaient des ceintures d'explosifs, a ajouté un porte-parole. La police a fait savoir sur son compte Twitter qu'elle considérait cette attaque comme liée à l'attentat qui a fait 13 morts et une centaine de blessés d'au moins 18 nationalités différentes jeudi à Barcelone. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Le premier suspect a été identifié comme Driss Oukabi, selon un porte-parole de la police. L'État islamique a revendiqué l'attentat et dit avoir répondu aux appels à cibler les États de la coalition anti-djihadiste opérant en Syrie et en Irak. Le même mode opératoire avait déjà été utilisé à Nice, Berlin et Londres. La chancelière allemande Angela Merkel a condamné l'attaque, tout comme la première ministre britannique Theresa May. « Soyez courageux et forts », a tweeté Donald Trump. « Nous restons unis et déterminés », a lancé Emmanuel Macron. Vladimir Poutine, lui, a appelé la communauté internationale à s'unir contre les forces du terrorisme. L'Espagne, troisième destination touristique au monde, avait jusque-là été épargnée par le groupe État islamique. C'est à Madrid qu'ont eu lieu les attentats les plus meurtriers en mars 2004. Des bombes dans des trains avaient fait 191 morts.
Ici aux États-Unis, le fossé semble se creuser davantage encore entre Donald Trump et son propre parti. Deux sénateurs républicains, Lindsey Graham et Jeff Flake, ont publiquement critiqué le président américain, tandis qu'un troisième, Bob Corker, s'est posé des questions sur, je cite, « la stabilité et la compétence de M. Trump ».
La raison, les propos du président Trump renvoyant dos à dos les extrémistes blancs de droite et les contre-manifestants de samedi dernier à Charlottesville en Virginie. Monsieur Corker est le président de la commission sénatoriale des affaires étrangères. Monsieur Trump, dans des tweets, a réagi vivement, qualifiant les déclarations de Monsieur Graham de mensonges dégoûtants et apportant essentiellement un soutien à l'adversaire de Monsieur Flake aux primaires républicaines de l'Arizona en 2018.
Au Canada, le nombre de migrants entrés dans le pays a sensiblement augmenté. Plus de 3800 personnes tentant de traverser illégalement la frontière avec les États-Unis ont été interpellées dans la province de Québec pendant les deux premières semaines du mois d'août. Les détails avec Eddie Isango.
Il s'agit là des chiffres sans précédent selon Claude Castanguet, responsable de la Gendarmerie royale du Canada. Ces services ont intercepté des centaines de personnes chaque jour à la frontière, hors du poste du contrôle officiel. 8 de ces demandeurs d'asile sur 10 sont d'origine haïtienne. Ils fuient les États-Unis avant la perte prévue de leur statut de protection temporaire. Ces statuts accordés à près de 60 000 ressortissants haïtiens après les séismes de 2010 a été prolongé de 6 mois par l'administration Trump. Il doit se terminer à la fin de l'année. Les autorités canadiennes préviennent qu'il n'y a aucune garantie car la moitié des demandes d'asile présentées par des Haïtiens l'an dernier a été rejetée. L'armée canadienne a été appelée en renfort près du poste frontière des Saint-Bernard-de-la-Colle au sud de Montréal. Elle a érigé la semaine dernière une soixantaine de tentes pour héberger quelques 1200 personnes par jour.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Écho, Eric Manirakiza.
En Côte d'Ivoire, près de 130 000 travailleurs, soit près de 80% des effectifs de la fonction publique, vont recevoir le paiement d'arriéré d'un montant global de 249,6 milliards de francs CFA. C'est la conclusion d'un accord entre le gouvernement et les syndicats pour instaurer une trêve sociale de 5 ans. Toutefois, Abidjan a averti que le non-respect d'une des clauses pourrait impliquer sa rupture tacite. Le Nigeria injecte 41 milliards de dollars pour un programme de réhabilitation et de construction ferroviaire. La première ligne va s'étendre sur 1100 km pour relier Lagos à Kano et la seconde entre Lagos et Calabar dans l'est du pays. Ce projet, financé principalement par la China Exim Bank, devra améliorer le mouvement des biens et la diversification économique. Pour une meilleure gestion, le gouvernement envisage de privatiser la plupart de ces lignes. Le Soudan a rassuré l'Égypte pour la construction par l'Éthiopie d'un immense barrage hydroélectrique sur le Nil Bleu. Doté d'une capacité de 6000 MW, ce barrage, présenté comme le plus grand d'Afrique, doit créer un lac réservoir de plus de 200 km de long. Il permettra aussi à l'Éthiopie d'exporter de l'électricité vers les pays de la région. L'Égypte tire du Nil environ 90% de son eau et craint que ce barrage va affecter le débit.
Les sports à présent avec Nicolas Pinault. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Coup d'envoi de l'AfriBasket 2017 à Bamako.
Et oui, la 25e édition du championnat d'Afrique des nations de basketball féminin démarre ce vendredi à Bamako, la capitale malienne, et s'achèvera le 28 août. Sur place, pour VOA Afrique, on retrouve Amdinsi.
Bamako sera la capitale du basketball féminin africain pendant 10 jours. En effet, le top départ de la grande messe du basket africain sera donné ce vendredi au Palais des Sports Salamata Mega. Pour cette 25e édition, 12 sélections réparties en deux poules de 6 vont rivaliser d'ardeur pour remporter le trophée continental. Côté organisation, tout est fin prêt selon le président du comité d'organisation, Amadou Diarra.
Tout est fin prêt ici au niveau du palais des sports pour que les compétitions démarrent. Nous avons pu mettre à la disposition de chaque délégation un bus pour le transport des équipes et un véhicule léger pour le chef de délégation. L'État du Mali s'est mobilisé. Le peuple malien s'est mobilisé pour accueillir les fils de l'Afrique. Sous-commission sécuritaire a pris des dispositions pour sécuriser non seulement les hôtels dans lesquels les délégations sportives sont hébergées. Des dispositions sécuritaires ont été prises également au niveau des différents sites de la compétition, notamment le palais des sports.
Rappelons que le Sénégal reste la nation la plus titrée de cette compétition avec à son actif 12 trophées. Les champions d'Afrique feront leur entrée en matière face à la Guinée. Bamako, Amédine Vera.
La liste du Togo dévoilée pour les prochains matchs amicaux.
Le sélectionneur du Togo, Claude Leroy, a convoqué 23 joueurs en vue des matchs amicaux contre le Niger. Ce sera le 31 août et le Malawi le 4 septembre. Leroy a convoqué Steve Lawson pour la première fois et deux joueurs locaux, le gardien Abochi Dové et le défenseur Burama Issoufou, leur première sélection. Absent en juin, Womé Dové et Mathieu Dosevi font leur retour.
Zidane en piste pour le titre de meilleur entraîneur FIFA.
L'entraîneur du Real Madrid, qui figure parmi les 12 techniciens en lice pour le titre. Avec le Real, Zidane a décroché une deuxième Ligue des Champions consécutive et le titre de champion d'Espagne la saison dernière. Les autres candidats sont l'entraîneur de la Juventus, Massimiliano Allegri, Carlo Ancelotti du Bayern et Antonio Conte de Chelsea.
En Espagne, Luis Suarez, absent un mois.
L'attaquant uruguayen du FC Barcelone, blessé en Supercoupe contre le Real Madrid mercredi, va manquer au moins 4 semaines de compétition. C'est un nouveau coup dur pour les Blaugrana. Un examen a révélé que le joueur souffrait des ligaments du genou droit.
Transfert Kevin Prince-Boateng peut être de retour en Allemagne.
L'Eintracht Francfort a confirmé hier son intérêt pour accueillir l'international ghanéen Kevin Prince-Boateng, le joueur âgé de 30 ans qui a quitté cette semaine son club espagnol de Las Palmas pour des raisons personnelles. Boateng polyvalent sur les différents postes offensifs et notamment passé par les clubs allemands du Hertha Berlin, Dortmund et Schalke 04.
Enfin, suspension confirmée pour Frankie Fredericks.
La suspension à titre provisoire de l'ancien sprinter namibien de son poste de membre du Conseil de la Fédération internationale d'athlétisme a été confirmée par l'instance hier. rejetant ainsi l'appel du Namibien. Le journal Le Monde avait révélé qu'une somme de près de 300 000 dollars avait été versée sur le compte du champion le jour même de l'attribution à la ville de Rio des Jeux Olympiques de 2016 par le Comité International Olympique. C'était le 2 octobre 2009 à Copenhague.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Burkina Faso, les familles des victimes de l'attaque du restaurant Aziz Istanbul de Ouagadougou ont procédé jeudi à la levée des corps à la morgue de l'hôpital de Bogodogo, près de la capitale burkinabé, 4 jours après cet attentat meurtrier. 18 personnes, 9 Burkinabés et 9 étrangers, ont péri dimanche soir sous les balles de 2 assaillants présumés djihadistes alors qu'elles dînaient dans ce café-restaurant halal de la principale avenue de la ville. Pour les besoins de l'enquête, les dépouilles ont été autopsiées dans l'hôpital. De Ouagadougou, notre correspondant Zoumana Wonogo.
Les habitants de Ouagadougou, une fois de plus, ont fait nombreux le déplacement à la morgue de l'hôpital district de Bogodogo pour soutenir les familles éplorées. Sur place, un homme était au four et au moulin, car c'est par lui qu'il faut passer pour accéder au corps. Lui, c'est Philippe Évariste Kambou, le chef de la chambre mortuaire. On l'écoute sur la procédure d'enlèvement des corps et l'aspect spécial de cette journée.
Il s'agit tout juste de venir avec certains documents, certificat médical de décès et le certificat de non-contagieux pour attester que les victimes ne sont pas contagieuses. Et donc, au vu de ces documents, nous mettons à la disposition des défunts, aux proches. C'est une journée particulière. Tout simplement, c'est la première depuis l'ouverture de la chambre mortuaire. Elle est spéciale. Vu son caractère macabre.
C'est la société Burkicep, ou les pompes funèbres du Faso, qui a été chargée de l'enlèvement des corps des lieux de l'attaque à la morgue et jusqu'à leur dernière demeure. Étienne Ouedraogo, le responsable de Burkicep, avoue ici le choc qu'il a ressenti face à ceux de l'attaque.
Dans ce cas précis, réellement, on est touché au plus profond de nous parce que l'acte est ignoble, l'acte est inhumain. Et franchement, vu des humains, nos semblables, criblés de balles, de façon, je dirais, animale, c'est très, très choquant. On ne souhaite même pas ça à ton ennemi.
Ce n'était pas facile d'avoir les sentiments des parents des victimes. Mais Richard Yameogo, journaliste à la retraite, qui a perdu son oncle dans l'attaque, a accepté parler.
La mort simple me fait mal, mais dans cette situation-là, c'est violent et ça ne peut que heurter. Nous pensons que l'État du Burkina prendra ses responsabilités, mènera les enquêtes qu'il faut, peut-être pour situer, mais serait-ce que les responsabilités. Sinon, c'est arrivé, nous l'acceptons. Le pays paye un lourd tribut encore, une situation que, bon, la population même ne maîtrise pas.
Une question que se posent les Burkinabés, c'est celle-ci. Où se trouvent les corps des terroristes? Nous avons posé la même question au chef de la chambre mortuaire de l'hôpital de Bogodogo.
Ben oui, on les a reçus, ils sont là. Vu leur personnalité, ils sont d'emblée humains. Dans toute leur entité, ils sont humains. Mais je condamne avec la ferme énergie des actes qu'ils ont posés. En fait, c'est pour dire que tout juste, on ne pouvait pas les laisser comme ça, vous voulez qu'on les mette où?
Pour le moment, l'attaque d'Istanbul n'a pas été revendiquée. Zoumana Wonogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
Hajj annuel à la Mecque, après l'étape de Médine, consacrée essentiellement à la visite des lieux saints tels que la mosquée du prophète Mohammed et le cimetière des martyrs de la bataille de Houd, les pèlerins poursuivent les randonnées spirituelles à la Mecque. Avant le début du rituel du Hajj, qui démarre le 8e jour du 2e mois du calendrier lunaire, les pèlerins, à leur arrivée à la Mecque, doivent accomplir la Umra, encore appelée le petit pèlerinage, un acte d'adoration recommandé par le prophète de l'Islam. Nous retrouvons Siriki Baro en compagnie des pèlerins de cette année en Arabie Saoudite.
Avant leur entrée dans la ville sainte, les pèlerins font escale au Miqat, un lieu de sacralisation d'où ils se revêtent de leur ihram. Cette tenue composée de 2 pièces d'étoffe non cousues. Les ressortissants marocains venus de Safiville sont au nombre de 290. Âgé de 36 ans, Hakim est l'un des guides de ce contingent. Il nous explique les étapes de la Umra.
L'Umra passe bien, tous les hajis joyeux par l'Umra. L'Umra tourne à Mecca, Kaaba. Après boire le zamzam. Après, cette fois, et doua, coiffer les cheveux, tout ça.
Une fois ce rituel accompli, le pèlerin se désacralise en revêtant des vêtements ordinaires. Il peut donc à souhait faire le tawaf qui correspond à 7 fois le tour de la Kaaba, le lieu le plus sacré pour les musulmans. Pour ces 290 Marocains, la Umra achevée, l'étape de la Mecque se révèle très éprouvante en termes de commodité. Comme nous l'indique Abdul Hazar, la soixantaine environ. Il arrive pour la première fois en Terre Sainte.
Dans le resto, un vieux fait un rang qui dure 2 heures, c'est pénible pour lui. Donc il faut lui donner un peu de facilité. Surtout, il y en a des femmes qui souffrent de rhumatisme, qui souffrent de diabète, qui sont diabétiques, qui font l'insuline. Donc il faut les aider. Il ne faut pas faire le rang. Nous n'avons pas vu ceux qui sont chargés de la mission de santé. Ils sont absents. Les douches ne sont pas utilisables. Donc, je pense que c'était 25 cm sur 25 cm carrés. Donc, on ne peut pas accéder aux douches.
À la Mecque, tout comme à Médine, les pèlerins auront aussi l'occasion de visiter d'autres musées spirituels, notamment la grotte dans laquelle le prophète de l'islam a reçu sa première révélation. Siri Kibaro, depuis la Mecque, pour VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Des experts américains, mexicains et canadiens sont réunis cette semaine à Washington. En jeu, eh bien, la réforme de l'ALENA, l'accord de libre-échange nord-américain, que dénonce le président Donald Trump, qui le trouve défavorable aux entreprises américaines. Ces négociations sont suivies de près à Montréal, au Canada. Michel Leblanc, président de la Chambre de commerce de Montréal métropolitaine, estime qu'il était temps de revoir cet accord qui remonte à 1994.
C'est clair que c'est un accord qui a été extrêmement profitable pour le Canada, pour le Québec et Montréal, mais également pour les États-Unis et le Mexique. Mais en même temps, c'est un accord qui date, il a plusieurs décennies derrière lui, et le premier objectif, nécessairement, c'est de le moderniser. Au moment où cet accord-là a été signé, l'Internet n'existait pas, il n'y avait pas de commerce en ligne. On parlait d'immigration, on parlait de réfugiés, mais on parlait pas de fluidité de la main-d'œuvre spécialisée, de grande mobilité de main-d'œuvre comme on a aujourd'hui. Donc, ne serait-ce que pour ces deux aspects-là, c'est un accord qui mérite d'être modernisé.
Donc, Trump a raison de remettre ça en cause, alors?
Ben, ce que le président Trump dit, ça varie d'une semaine à l'autre. Alors, il y a les temps où il dit que c'est un accord qui doit être modernisé et que la relation avec le Canada était très bénéfique et l'accord était très bénéfique. Il y a d'autres moments où il parle de modifications beaucoup plus profondes et là, se met à critiquer certaines applications dans certains secteurs. Il a parlé notamment du lait et d'autres secteurs. Alors, c'est difficile de se baser sur ces déclarations publiques. Ce que je comprends par ailleurs, c'est qu'il y a une volonté commune aux États-Unis, au Canada et j'imagine au Mexique, même si je ne les ai pas rencontrés, de moderniser cet accord et peut-être d'en étendre la portée, comme je le disais, entre autres au niveau du commerce électronique.
Alors, vous avez mentionné le secteur laitier. Hein? Quels sont les autres secteurs québécois qui peuvent être touchés? On pense notamment au bois.
En fait, la particularité du domaine du bois d'œuvre, c'est que c'est un secteur qui n'est pas soumis à l'accord de libre-échange et c'est un secteur où il y a eu des guérillas commerciales depuis des décennies. Donc nous, ce qu'on voudrait, c'est que le secteur du bois d'œuvre soit intégré dans l'ALENA 2.0 de façon à ce que les règles du jeu soient clarifiées et de façon à ce qu'on évite à l'avenir ces périodes d'incertitude où on se retrouve devant des tribunaux et à ne pas savoir si des tarifs seront levés ou bien si les tarifs qui ont été imposés seront maintenu. Donc, la grande particularité du bois d'œuvre, c'est d'être un secteur qui n'en faisait pas partie et qui était pénalisé de ne pas être soumis à l'ALENA.
Alors, est-ce que vous êtes un peu inquiet que ce soit des négociations entre Ottawa et Washington et que Québec ne soit pas sur la table?
Non, pas vraiment. Il faut comprendre pour les auditeurs qu'à l'intérieur du Canada, le Québec est l'endroit d'où ont émergé la plupart des réflexions sur l'importance du libre-échange. Je dirais que l'élève première classe au pays pour le libre-échange, c'est toujours le Québec. Et ce que ça veut dire, c'est qu'il y a beaucoup de spécialistes, d'experts du Québec qui sont inclus dans les négociations. Le Québec a joué un rôle crucial dans les négociations avec l'Europe au niveau de l'accord de libre-échange qui a été signé l'année dernière. Donc, à ce moment-ci, on fait partie des équipes. Il y a à Ottawa une grande sensibilité à l'expertise du Québec.
Michel Leblanc, joint à Montréal par Bagassi Koura. Le président Donald Trump a indiqué hier matin qu'il n'était pas un raciste, mais il a plaidé pour le maintien des statues et monuments des leaders confédérés qui étaient opposés à l'abolition de l'esclavage. Le débat sur le racisme fait rage ici aux États-Unis depuis les événements tragiques du week-end dernier à Charlottesville en Virginie. Pour une analyse, Abdourahmane Dia a joint ici à Washington le docteur Marilyn Sefocle de l'Université Howard.
Les questions raciales sont à l'origine même du fondement de la naissance de la nation américaine. Donc ce ne sont pas des questions qui peuvent être évacuées de façon très rapide. Ce sont des questions qui demeurent avec les citoyens américains tant que ces questions ne seront pas confrontées de façon réelle.
Beaucoup de Blancs qui ne sont pas forcément de l'extrême droite semblent dire que la gauche exagère quand il s'agit du racisme. Pensez-vous qu'ils peuvent avoir raison ou que c'est plutôt une gêne de parler publiquement de ces questions du racisme?
Davantage là d'une gêne, parce qu'il y a, beaucoup qui sont d'accord avec le fait que le racisme perdure, mais ils ont peur que les futures générations de Blancs grandissent avec un sentiment de culpabilité. Or, il ne s'agit pas là d'infliger aux générations à venir un sentiment de culpabilité, mais par contre de construire un avenir pour vivre ensemble beaucoup plus sain.
Est-ce que c'est une Amérique plus diversifiée qui fait la crainte de certains au niveau de cette population blanche?
En insistant sur le fait que l'Amérique ne sera plus blanche, on veut mettre les Blancs américains en face d'une certaine réalité. Toutefois, pour les mettre devant cette réalité, il faut aussi parler de l'histoire. Et parler de l'histoire, c'est une histoire vraiment très dure vis-à-vis des Native Americans, des Amérindiens, et vis-à-vis des Noirs américains. Et ça, il faut en parler. Il faut que chaque Blanc américain, Noir américain, américain de toute origine, puisse connaître cette histoire de façon très intime et connaître les dates, et que ce ne soit pas une histoire qui soit une histoire triomphaliste. Parce que jusqu'à maintenant, ce qui prévaut dans le discours américain, c'est une histoire triomphaliste qui montre l'immigré venant de Europe avec des idées extraordinaires et qui vraiment façonnent la nation. Or, rien n'est moins vrai. Il y a aussi la force de toutes les différentes composantes de la nation américaine.
Le docteur Marilyn Sefocle de l'Université Howard, ici à Washington.
Chaque vendredi sur VOA Afrique, retrouvez John Lyndon dans l'Amérique.
L'Amérique et vous, c'est un condensé de la vie aux États-Unis avec l'éclairage de nos experts.
En réalité, l'impression que les Africains ont de la CPI, c'est que le vrai nom de la CPI, c'est Justice pour l'Afrique.
Fidel Castro était vraiment le cauchemar des États-Unis d'Amérique.
L'Amérique et vous, c'est aussi la politique intérieure et les problèmes de société vus sous l'angle américain et africain.
Que c'est une bonne politique qui se vit du côté des États-Unis.
Je crois qu'il faut saluer d'abord cette initiative américaine.
L'Amérique et vous, votre fenêtre sur les États-Unis tous les vendredis 19h temps universel sur VOA Afrique et voafrique.com.
Dans la prochaine édition de Votre Santé, Votre Avenir, nous parlerons de la tuberculose, une maladie opportuniste fréquente chez les personnes séropositives.
En effet, selon l'OMS, la tuberculose est le premier facteur de mortalité chez les personnes porteuses du VIH-SIDA. En 2015, 35% des décès des séropositifs ont été dus à la tuberculose.
Pour en parler, nous recevrons comme invité le docteur Moutaza Lusungu Baba, médecin généraliste. Il nous dira comment éviter la maladie et il nous parlera aussi des soins appropriés pour les malades.
Nous écouterons le témoignage d'un malade et nous nous rendrons dans un centre d'encadrement et de professionnalisation de jeunes tuberculeux en RDC.
Votre santé, votre avenir est un programme de VOA Afrique diffusé les samedis, dimanches et mercredis à 8h30, temps universel.
Ne manquez pas le rendez-vous.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.